VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. En Côte d'Ivoire, 23 partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, ont dénoncé jeudi le projet de nouvelle constitution au lendemain de sa présentation par le président Alassane Ouattara, évoquant une procédure antidémocratique. Le projet sera examiné aujourd'hui en commission avant d'être adopté lundi. Le texte adopté sera soumis au vote de l'ensemble des députés le mardi. Ce projet doit être soumis à un référendum à la fin du mois d'octobre. Après adoption par les députés dont le vote sur le texte ne fait aucun doute, l'actuelle majorité dispose de plus de 90% des sièges à l'Assemblée nationale où ne figure aucun membre de l'opposition qui avait boycotté le scrutin en 2011. Au Niger, attaque du camp de réfugiés des Tissalites dans la région de Tawa par des assaillants jeudi. Écoutons le point fait par le Premier ministre Begui Raffini après cette attaque.
Les pertes en vie humaine que nous avons enregistrées suite à l'attaque qui a été menée dans une zone de Tassara qui s'appelle Tezelit. Donc c'est un camp de réfugiés. Je crois qu'ils ont profité pour surprendre nos éléments. Et malheureusement, nous avons eu beaucoup de morts. Évidemment, les bilans, pour le moment, on nous a annoncé 22. Mais nous ne sommes pas encore très sûrs que ça ne passe pas cela. Donc c'est vraiment une grosse perte au niveau de nos éléments des forces de défense ou de sécurité. Donc prions pour leur mémoire.
Le bilan provisoire est donc de 22 morts. Selon une source locale contactée par notre correspondant Abdoul Razak Idrissa, il s'établit ainsi 5 gendarmes, dont un sous-officier, 14 membres de la garde nationale et 3 militaires du renseignement. En outre, 2 véhicules et une moto auraient été emportés dans cette attaque. En République démocratique du Congo, des hommes armés non identifiés ont attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi le village de Kigalama, situé à 200 km de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Rapport des témoins et des autorités locales, les assaillants ont pillé le village, incendié des maisons et violé des femmes, selon les habitants du village. Un témoin de cette attaque, qui a requis l'anonymat, explique.
Les individus sont venus à Kigalama à 23h. Ils sont opérés jusqu'à 4h du matin de ce mercredi. Ils étaient nombreux, je ne peux pas connaître leur nombre, mais les uns parlent les Kinega et d'autres parlent les Lingala. Certains d'entre eux qui possédaient les machines et d'autres les armes à feu. Ils ont pillé plusieurs maisons. Arrivés là où nous étions, ils nous ont torturés physiquement en demandant une somme de 500 000 francs. Ils sont partis avec tout ce que nous possédons, une somme de 280 000 francs. Ils ont incendié des maisons. Ils ont violé 3 femmes. Il y avait une et une autre qu'on avait transportée dans la forêt. Elle est venue nous informer qu'elle était violée.
On va au Cameroun, au moins 500 enseignants n'ont pas rejoint leur poste dans le nord du pays à cause de leur crainte pour leur propre sécurité. Boko Haram, qui signifie l'enseignement occidental, est un péché, a trop souvent attaqué des écoles de la région, mais les responsables camerounais assurent que la sécurité s'est améliorée. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, récit John Lyndon.
Des élèves apprennent à chanter l'hymne national du Cameroun à l'école primaire de Kousséri, dans l'extrême nord, près de la frontière avec le Tchad et le Nigeria. 2 enseignants sont sur place et 3 ne sont pas revenus alors que l'école a rouvert ses portes il y a un mois. Kinda Songwe s'explique.
It's like a vocation. I was like inborn.
Enseigner, c'est une vocation, c'est comme un instinct. Lorsque j'étais petite, j'aimais à jouer à la maîtresse. J'ai grandi ainsi et finalement décidé de réaliser mes rêves. J'ai toujours eu de l'admiration pour les maîtres d'école et ma mère enseigne à la maternelle.
Le groupe Boko Haram a ciblé les écoles depuis le début de son insurrection en 2009. L'école de Tourou a été incendiée il y a 2 ans, avec plusieurs enfants tués ou blessés. Le gouvernement a rouvert les classes, mais seuls 2 enseignants sur 8 sont revenus. Nguenan Timothy se souvient de cette attaque. Lorsqu'ils sont venus ce jour-là, nous étions apeurés, nous avons fui. Maintenant, je pense que le gouvernement a pris de sérieuses mesures pour sécuriser l'école et nous permettre de faire notre travail. Cependant, beaucoup d'enseignants ont toujours peur de revenir. Bayama Kalin estime que le gouvernement devrait augmenter la prime de risque.
Vous ne pouvez pas avoir des enseignants qui ont des multiples revendications et pour lesquelles leurs employeurs ne réagissent pas même à moitié. C'est pas motivant, c'est pas du tout motivant.
Mais pour Tassan Wilfried de l'Association des enseignants du Cameroun, ce sont les enfants qui payent le prix.
We send out a clarion call for
Nous lançons un appel aux enseignants pour qu'ils mettent toute leur énergie à l'éducation des enfants malgré les conditions difficiles de travail. Nous voyons la situation critique des enfants et leur avenir paraît sombre. De son côté, le général Jacob Kodji, commandant des troupes camerounaises, s'est voulu rassurant.
En liaison avec les autorités administratives et les responsables des enseignements de base secondaire, nous gardons un contact permanent pour voir comment pallier toutes sortes de désagréments possibles. Enfin, nous demandons les populations, les élèves, les parents et les enseignants d'être en étroite coordination et collaboration avec toutes les forces de maintien de l'ordre pour apporter tous les renseignements, les informations qui sont à leur portée afin d'assurer leur sécurité.
Midji Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, a lancé un appel pour que les enseignants reprennent le travail. Près de 100 000 enfants déplacés n'ont déjà pas accès à l'école et avec le manque d'enseignants, 100 000 enfants supplémentaires sont en péril.
Les électeurs marocains ont commencé à voter ce matin pour élire leurs députés. Ces législatives s'annoncent comme un face-à-face entre les islamistes du Parti Justice et Développement PJD à la tête du gouvernement de coalition depuis 5 ans et leurs rivaux du Parti Authenticité et Modernité d'Option Libérale. Près de 16 millions d'électeurs sont appelés à voter pour élire 395 députés dans 92 circonscriptions et selon un système de liste à la proportionnelle. Les résultats devraient être publiés au fur et à mesure, circonscription par circonscription, à partir de ce soir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit d'urgence ce vendredi à la demande de la Russie pour entendre un compte-rendu de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie sur la grave situation régnant à Alep Est. L'émissaire de l'ONU, Stéphane de Mistura, doit participer à la réunion par vidéoconférence depuis Genève. Il a déclaré jeudi, lors d'une conférence de presse, que les quartiers de l'Est d'Alep, tenus par les rebelles, pourraient être totalement détruits d'ici la fin de l'année si le régime syrien et la Russie poursuivaient leur offensive militaire. Le prix Nobel de la paix a été attribué aujourd'hui au président colombien Juan Manuel Santos pour ses efforts déterminés en faveur de la paix, en dépit de l'échec du référendum de l'accord conclu avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, a annoncé aujourd'hui le comité Nobel. Le comité a souligné que ce prix était également un hommage au peuple colombien et à toutes les parties impliquées dans le processus de paix.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'ex-premier ministre britannique Tony Blair évoque un possible retour en politique dans une interview aujourd'hui pour aider au rebond du centre-gauche et faire face aux conservateurs en route vers un Brexit dur, opposant virulent au leader gauchiste du Labour, Jeremy Corbyn. L'ex-premier ministre estime, et je cite, que la politique britannique vit franchement une tragédie si le choix est entre un gouvernement conservateur en route vers un Brexit dur et un Labour d'extrême gauche qui défend un programme nous ramenant dans les années 1960. Fin de citation. Ici aux États-Unis, la Floride faisait face aujourd'hui à l'ouragan le plus menaçant de son histoire, récent avec l'arrivée de Matthew et ses vents soufflant jusqu'à 195 km/h qui ont déjà fait de nombreux morts et provoqué d'importants dégâts en Haïti. Matthew a semé la désolation en Haïti où il a fait des dizaines, voire des centaines de morts en début de semaine, selon des bilans encore partiels. Il a aussi provoqué des dégâts matériels importants en République dominicaine, à Cuba et au Bahamas. L'ouragan qui se déplace à 20 km/h devrait passer près ou au-dessus de la côte est de la péninsule de la Floride jusque dans la nuit de vendredi aujourd'hui. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir tenu compagnie au cours de ce jour-là. Le prochain sera présenté par Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi et bon week-end sur le continent. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.